Jésus se rendit dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire : Par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? Alors Jésus leur répondit : Je vous adresserai aussi une question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il nous dira : Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondèrent à Jésus : Nous ne savons, nous ne savons pas. C'est Jean ? C'est Marc ? C'est Marc 11, voilà. J'étais à Marc 13, mais c'est Marc 11, verset 23. Hein. Voilà. Je termine la lecture au verset 27. Alors, ils répondirent à Jésus : Nous ne savons pas. Et Jésus leur dit à son tour : Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Je voudrais développer un peu l'autorité de Jésus ce matin. L'autorité de Jésus. Vous voyez, Jésus, fils de Dieu, et aussi fils de l'homme, il a reçu l'autorité du Père, qui lui est l'autorité suprême. À l'intérieur de la Trinité, où Père, Fils, Saint-Esprit sont Dieu, chacun est Dieu, donc il n'y a qu'un seul Dieu et trois personnes, le Père a l'autorité suprême. Et il a donné cette autorité à son Fils, dans le cadre de son ministère terrestre, parce que le Fils restait en relation avec son Père. Il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Donc il exerçait l'autorité auprès de son Père. Et ensuite, après, il a donné cette autorité au Saint-Esprit, puisqu'il a dit : Je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un paraclet. Quelqu'un, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui me remplace sur la terre. Vous ne serez pas orphelin, vous serez avec lui. Et donc, il y a l'autorité du Saint-Esprit, qui est une autorité opérationnelle, hein, qui nous aide à chaque instant, et nous, on dirait charismatique. Hein, c'est-à-dire par les dons de l'Esprit, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on est au Seigneur, on reçoit le Saint-Esprit qui demeure avec nous. Et par les dons, alors permanents, pour ceux qui ont un appel permanent, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est don permanent, ou alors des dons épisodiques, dans chaque culte, alors là c'est l'enseignement 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 qui l'explique, la main dansante de Dieu distribue les dons, donc vous êtes supposé être à l'écoute du Saint-Esprit pour exercer un don. C'est pour ça que, vous voyez, c'est la communauté, c'est le commun, là on est de nouveau dans le commun, où chacun d'entre vous, vous êtes supposé donner de la part de Dieu, du Saint-Esprit, quelque chose, soit une parole, soit un parler en langue, soit une interprétation, soit une vision, soit une exhortation, vous voyez. Alors on est dans l'exhortation en ce moment, c'est bien, mais on a connu des périodes dans l'Église où les gens, il y avait beaucoup plus de manifestations spirituelles, de visions, de prophéties, etc. Donc on prie pour que ça revienne, pour que vous puissiez l'exercer. C'est par la foi, hein. N'attendez pas ce qu'un ange vienne vous toucher et dire : Maintenant, tu vas dire ça. Si vous attendez ça, vous risquez d'attendre longtemps. Parce que c'est pas en général comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se passer. Mais ça veut dire vous, vous devez exercer la foi, ressentir quelque chose. Alors la foi, c'est un risque. C'est-à-dire que vous risquez de vous tromper. C'est pour ça que moi, en tant que président, j'exerce cette miséricorde à votre égard. Pour pas vous condamner, vous culpabiliser si ça se passe mal ou voilà, si c'est pas exactement. Mais sentez-vous libre d'exercer le ministère que le Saint-Esprit va vous donner à un instant donné, dans la louange ou à un autre moment, pour exercer ce don. Est-ce que je me fais comprendre? On est dans une église charismatique. Donc on est supposé avoir cette liberté, 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, qui est longuement développée par l'apôtre Paul, comment fonctionne une église. Donc revenons à l'autorité de Jésus. Ce qui est intéressant, quand on regarde de près comment Jésus exerce l'autorité qu'il a reçue du Père, c'est exactement le modèle que nous devrions suivre, nous, qui avons reçu une autorité. On a tous une autorité. L'autorité est hiérarchisée, et l'autorité du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ensuite, après, l'autorité des dons ministériels, l'autorité des anciens, etc. Mais on a tous une autorité, ne serait-ce que vous, dans votre famille, pour les enfants, vous, dans votre travail, vous, dans votre condition de citoyen, etc. On a tous une autorité, c'est-à-dire une place où nous avons un rôle à jouer pour exercer et puis même au niveau spirituel, nous devons exercer cette autorité. On voit que Jésus, dans l'autorité qui est suprême de la part du Père, il ne force personne à l'écouter. Vous avez remarqué ça? Il ne force personne à l'écouter. Il parle, les gens, ils écoutent et ils n'écoutent pas, mais il ne les force pas. Deuxièmement, Jésus ne force personne à lui obéir. Pourtant, l'autorité, c'est la capacité de commander et de se faire obéir. Alors, est-ce que vous y êtes? Ou est-ce que vous dormez? Non. L'autorité, la définition de l'autorité, c'est de commander et de se faire obéir. Or, Jésus, qui a l'autorité suprême, on l'a vu, hein, il a l'autorité sur les démons, il a l'autorité sur les éléments déchaînés, sur les tempêtes, il a l'autorité sur la mort, il a l'autorité sur tout. Eh bien, lui ne force personne à lui obéir, alors qu'il pourrait. Donc, vous voyez, c'est un modèle. C'est un modèle cohérent avec son enseignement aux disciples. Quel est l'enseignement que Jésus donne à ses disciples au niveau de l'autorité? J'ai bien fait d'aborder ce sujet parce que ce n'est pas présent en votre esprit. Vous le savez, hein, vous le savez. Quel est vraiment le moment où Jésus aborde cette question franchement avec ses disciples concernant l'exercice de l'autorité, la manière de commander, la manière de se faire obéir? Pardon? Service, oui, mais à quel moment? Le centurion, alors ça, c'est la foi, oui, sa relation avec l'autorité. Pardon? Quand ils envoient, oui, aussi, c'est un exercice d'autorité. Ouais. Le lavement des pieds, bien sûr, c'est une... Ouais. Lazare aussi, oui, c'est bien. Mais l'un que vous n'avez pas cité, c'est quand les frères Zébédée veulent la place dans le royaume. Parce que vous savez, les disciples, ils étaient dans l'idée d'avoir une place à côté de Jésus. Hein. Ça les préoccupait, hein, plus que la mission d'être envoyé. C'était, Seigneur, où est-ce que je serai? À ta droite, à ta gauche. En plus, la maman s'y est mise. Hein, ouais, mes deux fils, ils seront à droite et à gauche, voilà, Jésus. Voilà. C'était ça leur préoccupation. Et des fois, il ne faut pas chercher loin. Alors, avec les humains, ça va, c'est très très proche. Et en fait, il leur dit, dans le monde, les chefs vous tyrannisent. Vous vous rappelez de ce passage? Il leur fait un enseignement. Les chefs vous tyrannisent. Mais vous, dit-il, ce n'est pas ainsi que vous devez être chef. Vous devez commander, vous exercer l'autorité. C'est vous, vous devez servir les autres dans un esprit d'humilité. Voyez-vous, c'est l'autorité suprême qui est Jésus. Il leur explique comment lui, il exerce l'autorité et comment les disciples sont supposés exercer l'autorité. Alors? Vous voyez, c'est à l'inverse. Et là, c'est du pratico-pratique. Hein. On n'interprète pas un passage de la Bible. C'est la Bible directement, elle donne cet enseignement. Jésus donne directement cet enseignement. Il dit, vous êtes supposé ne pas faire ça. Alors, est-ce que déjà, ça ne nous interroge pas? Est-ce que nous, en tant que père, par exemple, qui a l'autorité, Est-ce que vous avez toujours fait ça avec vos enfants? Cette manière d'agir? Placez-vous devant Dieu. Je suis sûr que non. Personne n'a fait ça. À un moment donné, on tyrannise. Ce qu'on appelle aussi l'abus. Alors, plus ou moins. Donc on a déjà de quoi se repentir. Hello? Non? Vous êtes tous parfaits, là? Les hommes, là? Ben, j'ai l'impression. Non? Si on était parfait, on aurait un résultat meilleur au niveau de nos enfants. Des fruits meilleurs. Vous croyez pas? Parce que l'amour, l'autorité exercée dans l'amour, c'est quelque chose qui élève. On le verra. J'en ai parlé déjà la semaine dernière et le général de Villiers, il le dit. L'autorité, auctoritas, c'est quelque chose qui élève et non pas qui abaisse. Et parfois, dans certaines cultures, c'est encore pire, hein, on abaisse pour pouvoir s'élever. Et le pire, c'est, vous avez peut-être connu au travail, il y en a qui marchent, même des marchepieds, sur les autres pour aller grimper. Dans le royaume de Dieu, c'est exactement l'inverse. Jésus a manifesté l'autorité. Il était cohérent avec son enseignement aux disciples. Il dit, il ne force personne à lui obéir. Pourtant, c'est un privilège d'obéir à Jésus. Jésus ne veut pas dominer ceux qui l'entourent. Alors quand on parle aujourd'hui de la nouvelle réforme apostolique qui parle de dominer, sur, voilà, c'est exactement l'inverse, vous voyez. Donc on peut parler d'hérésie, là, parce que c'est exactement l'inverse. On n'est pas là pour dominer notre entourage, même si c'est pour le bien. Vous ne croyez pas que Jésus était venu pour le bien? Hein? Au-delà de nous qui voulons le bien, mais il n'a jamais manipulé, dominé ceux qui l'entourent. Jésus veut seulement les aider à se réveiller, à se lever, à s'épanouir dans l'amour de Dieu. Par ses paroles, il remue profondément les hommes. Il les réveille. Dis à ton voisin, il les réveille. Il les réveille. Hein? Je ne sais pas si vous savez, moi j'ai fait de l'ergonomie aussi, j'ai été au contact de médecins pendant plus de 2 ans. Tous les mois, on a beaucoup parlé. Et on m'a expliqué que normalement, l'homme, naturellement, il dort. Voilà. Normalement, notre structure humaine, c'est de dormir. C'est pas normal qu'on soit éveillé. Normalement, on dort. Et dans notre corps, il y a une sorte d'adrénaline hein, qui se met en place et qui nous réveille. Vous voyez ? Mais quand ça s'arrête, on dort. Ouais. Donc l'état normal de chacun d'entre nous, c'est de dormir. C'est étonnant ça. Ouais. On est éveillé par un processus chimique hein, qui se met en route et qui nous fait réveiller. C'est vrai, Claudia ? C'est ce qu'on m'a dit. Donc, le Seigneur veut nous réveiller. Il veut remuer les hommes, il les réveille, les touche, les bouscule, les dérange. C'est vrai qu'il a dérangé les gens de son époque, hein, y compris les disciples, qui n'ont toujours pas compris jusqu'à la Pentecôte quelle était leur mission. Vous voyez, la vision, on parle de vision tout à l'heure, ils n'ont pas compris la vision de Jésus. Hein. Donc c'est pas étonnant que c'est difficile de faire passer une vision. Pourtant Jésus, il était pédagogue. Hein. Ouais, non, ils n'ont pas compris. Donc il les dérange, il les frappe, il les choque. Le jeune homme riche a été choqué. Hein. Il a tourné les talons, il est parti. T'es choqué quand Jésus a dit, mais avant tout, ce que tu as, et suis-moi. Il a dit, mais je fais tout bien. Il faisait tout bien, Jésus lui a pas dit non. Il suivait la loi scrupuleusement, c'était un juif parfait, sous toutes les coutures, etc. Mais il a dit, mais avant ce que tu as, et suis-moi. Et ça l'a choqué. Voilà. Mais il les émerveille aussi. Ils ont vu des merveilles avec Jésus. Il les fait réfléchir. Il les ouvre à quelque chose de plus grand. Il leur fait faire un déplacement intérieur. C'est ça la vision aussi. C'est qu'il faut nous déplacer à l'intérieur de nous-mêmes, dans tout ce que nous avons pensé, cru, dans le passé, tout ça, nos certitudes, nos préjugés. Hein, c'est nos préjugés qui nous empêchent de voir qui est Jésus et quel est son enseignement. Donc Jésus veut que nous arrêtions nous changions notre façon de voir en nous dégageant de nos préjugés, nous jugeons à l'avance. Il les libère, Jésus les guérit, Jésus les aide à changer de vie. Et si nous sommes engagés dans le ministère de prière, la maison d'Élie, c'est justement pour que nous puissions, avec intelligence, avec douceur, avec sagesse, changer de comportement. Amen. En expliquant les choses. La parole de Jésus remue, elle révèle, elle fait grandir. Elle élève, elle invite à un changement de vie, elle conduit à une vie pleine. Une vie qui est vraiment, si vous voulez, une vie pleine, eh bien Jésus la donne. Jésus est l'instigateur, auteur du dérangement, du bousculement, de la levée de vie dans les hommes. C'est pour cela que l'on peut dire que Jésus enseigne avec autorité. L'autorité de Jésus et l'enseignement de Jésus qui enseigne avec autorité, ça bouscule. Quand un enseignement ne bouscule pas, c'est mauvais signe. Vous voyez beaucoup, pour qui avait Internet, sur la télévision, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, des grandes églises et tout ça. En général, ils ne bousculent pas les gens, parce que ça leur permet d'avoir des grands auditoires, voire jusqu'à 10 000, 20 000, même 100 000 personnes. S'ils les bousculaient, la tendance serait à la baisse. Hein, et ça, ce ne serait pas bon pour les finances, pour quoi que ce soit. Alors, je ne les juge pas, mais je veux dire, en gros, ils disent, vous partez comme vous êtes venu, vous voyez, et on vous encourage, on vous aide, vous êtes beau, vous êtes merveilleux, vous êtes des gens extraordinaires, etc. Voilà, parce que ça fait du bien. Mais Jésus, il bousculait ses disciples. Et on a besoin d'être bousculé, bien sûr, dans l'amour. Et c'est ainsi que Jésus enseignait avec autorité. Parler avec autorité, c'est parler avec des paroles qui touchent, qui interpelle. C'est pas un hasard que, avec Alexis, quand on a fait le logo, dans le logo, c'est marqué le PEA, la communauté qui interpelle. Nous voulons être une interpellation pour nous-mêmes, pour les gens du dehors, parce que le royaume de Dieu interpelle. Amen. On ne peut pas rester comme on est quand on vient dans une église. C'est pas possible. Sinon, ça pose un gros, gros souci du message qui est apporté. On a besoin de changer. Est-ce que quelqu'un ici n'a plus besoin de changer? Levez la main, je voudrais vous rencontrer à la sortie. Vous êtes parfait? Non? Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer, non? Ok. Le problème, c'est dans quel domaine je dois changer? Il faut laisser le Saint-Esprit vous parler. Et ça, c'est difficile. Et c'est pour ça, dans cette période, on parlait tout à l'heure, intermédiaire entre l'ancienne et la nouvelle génération, mais placez-vous devant le Seigneur. Dans quel domaine vous devez vous mettre en question? Dans quel domaine, et surtout dans l'appel? Quel est l'appel que vous avez reçu pour que... Parce qu'à partir du moment où vous avez un appel, vous êtes responsable. Si vous êtes conscient de votre appel, il faut remplir cet appel parce qu'il vient de Dieu. Alors, donc placez-vous devant le Seigneur pendant cette période-là, pour vous-même, quel est votre appel et quel est l'appel de l'Église en tant que communauté. Nous, il y a 30 ans, on a reçu que l'appel était pour les familles. Aujourd'hui, on peut dire, on est satisfait de voir des fruits. Toutes les familles ne sont pas dans la dignité et l'excellence, mais en tout cas, on a vu des changements. Et c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc la nouvelle génération aura peut-être un autre appel, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le Seigneur qui accompagne et qui fait aboutir selon son dessein bienveillant, comme le dit Philippiens 12 et 13. Parler avec autorité, c'est parler avec des paroles qui touchent, qui interpellent, avec des paroles qui agissent, qui remuent la profondeur de l'homme. Parler avec autorité, c'est finalement aider les autres à se lever pour marcher dans la plénitude de leur vie. Alors, la semaine dernière, je vous ai lu un extrait du général de Villiers, hein, qui parlait d'être un chef, ben, la première page, il parle de ça. Il dit le mot autorité, qui est l'étymologie du mot auctoritas en latin, c'est élever vers. C'est un chef doit élever quelqu'un, pas abaisser. Les petits chefs, vous savez, les caporaux, là, les gars qui, voilà, qui veulent montrer les muscles et tout ça, c'est les petits chefs. Ceux-là, ils abaissent. Bah, tu vas faire la corvée de ceci, cela, ils aiment ça. Le vrai chef, il élève. Amen. Jésus, il a élevé. Amen. Est-ce que vous voulez être des vrais chefs? Je parle aux hommes dans leur foyer. Est-ce que vous voulez être des vrais chefs? Moi, je ne voulais pas être un chef. Hein. Non, non, non. Non. Bah, ça sera mon mémoire, d'ailleurs, je vais l'écrire en introduction. Je vais horreur des chefs. Parce que je suis né à 20 ans, j'étais en mai 68. Mai 68, on disait les chefs, on n'en veut plus. Parce qu'on avait des mauvais chefs. On avait des chefs qui écrasaient l'autre. Et les étudiants et tout le monde, toute la société française et mondiale, parce que ça s'est passé aux États-Unis et tout ça, on dit on a la marre des chefs. Soi-disant des mauvais chefs. Mais Jésus est un chef. Donc nous sommes chrétiens. Nous avons un chef qui est Jésus. C'est la tête. Chef, ça veut dire tête. Voilà. Mais moi, à l'époque, je dis non, je ne veux pas être un chef. Et ces 50 années avec le Seigneur m'ont montré qu'il faut être un chef. Et ça, c'était la chose la plus difficile dans ma vie, c'est d'accepter d'être un chef. Un chef généreux, un chef comme Jésus, un chef qui élève l'autre, qui le fait entrer dans sa destinée. Vous voyez ? C'est ça le vrai chef. Alors ? Je sais qu'on a tous des problèmes avec les mots. Moi, j'avais des problèmes avec le chef. Alors, si vous avez un problème avec les chefs, faites la maison d'Élie pour que vous soyez libérés. Parce que vous gagnerez du temps. Vous n'aurez pas besoin de 50 années. Moi, j'ai eu 50 ans pour être libéré. Mais vous, vous pouvez être libéré en 3 heures avec Simon Polite. Donc, je vous invite à aller le voir. Si vous avez un problème des chefs, avec le mot chef, je peux le comprendre, mais ne restez pas là parce que vous ne pourrez jamais rien faire dans votre vie si vous n'acceptez pas d'être chef. Alors, est-ce que je parle clairement? Alors, il y en a qui sont du côté des syndicats, bien sûr. Ah, faut descendre les chefs. Faites attention. Hein. L'esprit syndicaliste, c'est un esprit de destruction. C'est un esprit, c'est un spirit, c'est un démon. Hein, okay. Donc, faites attention. Moi, j'ai connu dans l'église de maison une dame qui avait l'esprit syndicaliste. Elle était contre tout. Et, ouais, parce que son père était syndicaliste, machin syndicaliste. Elle a fait toutes les églises du Mantois. Je ne sais pas si elle est encore dans une église, mais elle a mis du bazar partout. Bon. Parce que, voilà, elle était contre les chefs. Elle était un esprit syndicaliste. Un esprit de réclamation continuelle. Non, soyez des chefs. Si vous êtes des vrais chefs, vous allez élever l'autre. Vous allez le faire entrer dans sa destinée. Amen. Vous voyez comme quoi le symbole des mots, les mots sont chargés de sens. Mais Jésus redonne un autre sens et dit, vous, dans le monde, il vous tyrannise, mais ne soyez pas comme ça. Si vous êtes des vrais chefs, mais lavez les pieds des autres. Être au service des autres, c'est l'humilité. Jésus, il est parti de la gloire pour aller dans l'humilité la plus profonde, jusqu'à la croix, et il a montré l'exemple d'un chef. Amen. Alors, ça, c'est l'autorité de Jésus. Alors, d'où vient cette autorité? Vous savez que les anciens, les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, posent à Jésus cette question. Par quelle autorité fais-tu cela? Ça les intéressait. Par quelle autorité? Ou alors, qui t'a donné cette autorité pour le faire, ce que tu fais là? Alors, si Jésus répond par Dieu, pour ses chefs religieux, il s'auto-proclame envoyé de Dieu. Parce que qui est-ce qui peut vérifier que c'est Dieu qui l'a envoyé? Une telle réponse arrangerait sûrement les chefs religieux, car elle risquerait de choquer certains dans la foule et diviser la foule. Vous savez, les chefs religieux, ils aimaient bien diviser la foule. Parce que diviser, c'est régner. Okay, quand on divise, on peut mieux régner. Donc ça, c'est les oreilles arrangées. Mais si Jésus répond par les hommes, alors de quel droit vient-il se mêler des lois du temple, se mêler des rites juifs, israélites. Les chefs religieux, les prêtres et les scribes sont les spécialistes dans ce domaine. Et Jésus n'a pas à se mettre au-dessus d'eux. Vous savez, Jésus, s'il avait voulu se réclamer de l'autorité des hommes, il aurait dû être rabbin. Il aurait dû faire une école rabbinique. Or, il n'a pas fait. Il était avec ses parents. Il était charpentier. Voilà, mais ça pose problème. Parce que ceux qui avaient le droit légitimement d'exercer l'autorité, c'était ceux qui étaient l'école d'un rabbin, l'école rabbinique, qui connaissaient la loi, etc. Mais rappelez-vous, à 12 ans, ils les plaquaient, les chefs religieux. Ils connaissaient mieux la Bible sans être passés par une école rabbinique. Mais vous voyez, les hommes sont attachés au légalisme. Tu n'as pas fait ça, tu n'es pas légitime. Okay. Donc, voilà, Jésus n'a pas passé par cela, donc il ne pouvait pas se réclamer pour eux d'une autorité humaine. S'il se réclamait de Dieu, eh ben, il se faisait lyncher parce que la foule a dit, mais c'est quoi? C'est un prétentieux. Voilà, il dit que c'est Dieu qui l'a mis en autorité. Donc Jésus ne répond pas. Parce que dans les deux cas, eh bien, ça ne répondait pas à la réalité. Il ne répond pas directement au chef. Il leur pose une autre question. Il les piège. Et parfois, on est obligé de piéger les gens qui veulent vous piéger. Il n'y a pas d'autre moyen. D'ailleurs, chez les psychologues, ils disent si vous êtes en face d'un pervers narcissique, donc c'est un narcissique, nous sommes tous un peu narcissiques, mais ils sont pervers, eh bien, il faut contre-manipuler. Vous n'avez pas d'autre moyen. Il faut contre-manipuler. Et ça, c'est de la contre-manipulation, ce que Jésus a fait. Donc, vous voyez, ils connaissaient déjà les pervers narcissiques avant qu'ils ne soient développés sur la place publique au XXe siècle. Hein. Ils contre-manipulaient. Ils disaient, ah, vous ne voulez pas me dire d'où vient l'autorité de Jean-Baptiste, mais je ne vous dirai pas non plus la mienne. Ouais, la contre-manipulation. Ils ne répondent pas à la question. Parce qu'on ne peut pas. La Bible dit, avec un sot, il ne faut pas répondre. Avec un sage, il écoutera. Mais ne parlez pas un sot, parce qu'un sot, de toute façon, vous ne pouvez rien en tirer. Donc cette question, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi, dit Jésus. Et bien, cette question est embarrassante pour les chefs religieux à qui elle s'adresse. Ils ne peuvent pas répondre, ça vient de Dieu, donc le baptême de Jean, puisqu'ils n'ont pas reconnu Jean comme prophète. Pour eux, ce n'est pas un prophète. Pour les chefs religieux, parce que d'ailleurs, Jean-Baptiste refusait de les baptiser. Hein. Il disait, vous, race de vipère, débrouillez-vous, mais pas question de passer par les eaux du baptême, s'il n'y a pas repentance. Mais ils ne peuvent pas non plus répondre des hommes. Le baptême de Jean venait des hommes. Sans se heurter à la foule qui, elle, a reconnu Jean comme prophète. La foule a reconnu Jean comme prophète. Mais pas les chefs religieux. Alors ils ont fait le choix de dire « Nous ne savons pas. » Et Jésus leur dit « Moi non plus, je ne vous dirai pas. » Vous voyez, ça c'est de la contre-manipulation. Pour répondre à la question des experts en religion, Jésus prend modèle sur eux et répond « Moi non plus, je ne vous dirai pas. » Alors troisièmement, ce que je crois. Je crois que je connais un peu Jésus, je vois qu'il crée de nombreux liens autour de lui, des liens bienveillants, qui cherchent à accompagner les hommes, qui cherchent à les soutenir, qui cherchent à les aider, à les guider sur le chemin de Dieu, à les mener à la plénitude de leur vie, à leur destinée. Ça, c'est Jésus. Est-ce que je crois que l'autorité de Jésus vient de lui-même, des hommes ou du mal? Je vous poserai trois questions auxquels vous placerez devant le Seigneur pour concernant l'autorité. La première, c'est le mot « autorité me fait peur ». Est-ce que ça vous fait peur? Moi, ça m'a fait peur. Moi, j'étais dans une culture alsacienne imprégnée beaucoup des Allemands. Moi, il me faisait peur, cette autorité. D'ailleurs, on ne sait pas trop. Hein, à un moment donné, la tyrannie autoritaire, elle peut débouler sur le fascisme. On l'a vu avec Mussolini et avec Hitler. Et moi, j'étais objecteur de conscience. Je ne voulais pas entrer dans ces systèmes fascistes ou tyranniques. Donc ça peut faire peur. Et peut-être si ça vous fait peur, vous pouvez être angoissé. Et j'entends les paroles voilà, qui me disent mais, voilà, je ne peux pas supporter ça. Je sens que je n'ai pas mon mot à dire. J'ai l'impression que je vais mettre ma vie en veilleuse avec l'autorité. Je n'ai plus du tout confiance en moi. Je ne me sens plus du tout l'amour de l'autre pour moi. Ça peut paralyser hein, le mot autorité. Par exemple, je pense à un exemple, un professeur autoritaire. Vous n'avez jamais eu de professeur autoritaire hein, qui aime l'autorité. Il haussait toujours le ton de sa voix. Il était toujours ferme. On ne pouvait pas discuter avec lui. J'avais peur de lui. C'est le cas de ma petite fille, là, cette année, hein, Lucie, qui était toute son année était paralysée par son institutrice qui criait parce qu'il y avait du chahut. Et la fin, au mois de juin, elle a pu dire « J'ai passé là-dessus et j'ai compris que ce n'était pas contre moi qu'elle criait parce qu'elle n'avait que des bonnes notes. » Voilà. Mais on peut avoir peur de l'expression de l'autorité exercée de la mauvaise manière. Parfois, je veux commander, je veux être le chef, je veux qu'on m'obéisse, je ne tiens pas compte de la vie des autres, et on arrive à les mépriser. Alors si vous êtes dans ce cas-là, eh ben, placez-vous devant le Seigneur pour demander au Seigneur la véritable autorité. Est-ce que vous êtes méprisant avec les autres parce qu'ils ne font pas ce que vous demandez? Est-ce que vous exigez d'eux qu'ils fassent ce que vous demandez? Alors bon, là, on n'a pas le temps de développer la relation parentale. On le fera dans un séminaire qu'on fera sur un week-end, parce qu'après, il y a la responsabilité aussi des parents. Mais l'autoritarisme est un véritable problème qui paralyse. Le deuxième problème, c'est parfois, je trouve que l'autorité des autres est juste et bonne pour moi. Elle me guide dans le meilleur des chemins. Par exemple, un petit garçon a volé dans un magasin et maman l'a su. Elle est venue le voir et lui a longuement parlé. Elle lui a expliqué son point de vue et lui a demandé de ramener au magasin ce qu'il avait volé. Elle m'a dit qu'elle viendrait avec moi pour m'accompagner et son autorité était bonne pour moi. C'est une autorité d'explication, pas une autorité où crie sur l'enfant. On le menace, on lui fait un tas de choses, etc. Donc ça, c'est une bonne. Si quelqu'un autour de moi fait quelque chose de mal, est-ce que je le juge? Est-ce que je l'écrase? Ou est-ce que je lui en parle? Et là, on rejoint les problématiques dans l'Église. Si quelqu'un, à mon avis, fait quelque chose de mal, c'est peut-être pas mal en soi, mais pour moi, comment est-ce que je le reprends? Comment est-ce que j'agis? Ça, c'est la bonne question. Et si moi, je suis content qu'on ait pris soin de moi, je dois prendre aussi soin de l'autre dans ma façon d'exercer l'autorité. Troisième cas, je dois exercer mon autorité. Papa et maman sortent, je garde ma petite sœur. Est-ce que je veux avoir un pouvoir sur elle, la dominer, lui imposer ce qu'elle doit faire, ou est-ce que je fais attention à elle? Est-ce que je la surveille, tout simplement, pour qu'il ne lui arrive rien de mal? Est-ce que je la guide? Est-ce que, si elle connaît une difficulté, est-ce que je lui explique les choses si elle ne veut en faire qu'à sa tête? Voyez-vous, ça c'est un cas assez courant. Les enfants, ils veulent être le petit chef. Ils n'ont pas d'autorité, mais ils le prennent. C'est le petit caporal. Ah, maman m'a donné pouvoir garder les petits, et hop, ça y va. Hein, okay. Voilà. Vous voyez, c'est la nature humaine. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. Si quelqu'un doit me surveiller, est-ce que je suis attentif à ses paroles? Est-ce que je me laisse guider vers ce qui est bien? Est-ce que je suis enseignable? très souvent, Michèle le dit, mais je suis d'accord avec elle, si je rencontre un inconverti, parce que les chrétiens spiritualisent, oui, Dieu me parle, il faut des chrétiens qui me parlent. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui, il a utilisé un âne qui a parlé. Donc il peut utiliser un inconverti dans la rue, n'importe où, un magasin, qui vous font une remarque, et ça vient de Dieu. C'est à vous de discerner que c'est Dieu qui parle. Et pas de dire, oh, c'est un inconverti, alors voilà, c'est le dualisme classique, c'est un inconverti, il n'a rien à me dire, machin, etc. Voilà. Mais comme ça, vous restez avec votre mauvais caractère, hein. Vous ne changez pas, hein. C'est trop facile. Voyez-vous, Dieu est un Dieu qu'on doit chercher, dans les moindres détails. Et si quelqu'un me dit quelque chose qui est juste, est-ce que je le prends? Est-ce que j'en tiens compte pour m'aider à changer? C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui ne changent jamais, hein. Toute leur vie, ils ont toujours raison. Voilà. Dieu leur parle, mais ils ne le voient pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Vous voyez ? C'est un problème. Alors, je termine avec les cinq types d'autorité. Je vais arrêter là. Les cinq types d'autorité que Jésus a exercé. Et je remets ici bien l'étymologie d'autorité, auctoritas, qui signifie ce qui donne confiance à l'autre en lui permettant de devenir acteur de sa vie. Amen. Si vous voulez, vous, devenir acteur de votre vie, il faut que vous soyez soumis à une autorité. Si vous, vous voulez exercer une autorité, être un chef, vous devez permettre à l'autre, quel qu'il soit, de devenir acteur de sa vie. Et là, vous serez un vrai chef. Alors, c'est là qu'on voit le fruit du vrai chef et du faux chef, ou du petit chef. Okay ? Si l'autre devient acteur de sa vie, eh bien, vous avez fait ce que Jésus a fait avec ses disciples. Il a envoyé ses disciples qui ont remué le monde de son époque, sens dessus dessous, et qui ont évangélisé toute la région. Alors, le premier acte de force symbolique, c'est quoi? C'est Jésus qui se fâche. Les marchands du temple, ils ont transformé le temple en un... Voilà. Ils vendaient tout. Hein. C'est un bazar, comme on appelle ça. Hein. Où, petit à petit, eh ben, les sacrifices sont devenus une façon pour eux de se faire de l'argent. Cette première image nous montre la force symbolique de l'autorité de Jésus. C'est une violence symbolique. Il ne s'est pas tué, il ne s'est pas mis en prison, voilà, mais il s'est fâché, tout rouge. C'est une autorité qui secoue l'homme, il a voulu lui secouer, qui les remue intérieurement, qui renverse leur façon de voir, qui les invite à un déplacement de leur façon de voir les choses. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Est-ce que dans l'Église, nous voyons l'Église comme une maison de prière? Sinon, il faut qu'on nous fasse violence par rapport à cela. Cette image, c'est ne pas confondre avec violence et autorité. Là, Jésus exerce l'autorité. Il a dit, c'est pas possible de continuer comme ça. Surtout pas devant moi. Surtout pas devant moi. Parce que ce temple est le temple où la présence de Dieu est supposée venir. D'ailleurs, il est parti. Hein. Ézéchiel n'a pas pu rester. Dieu ne peut pas rester dans un bazar. Okay. Donc, dans Ézéchiel, on voit que le Saint-Esprit est parti du temple. Il n'y avait plus rien dans le temple. Il y avait, voilà, un marchand de toutes sortes. Donc là, c'est l'autorité de la force, mais pas de la violence. La deuxième autorité, c'est l'autorité d'influence. Ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership. Le leader, c'est celui qui influence les autres. Ça, c'est le deuxième type d'autorité. C'est que les foules le suivent librement. Alors, vous savez, un leader qui se retourne et qui voit qu'il n'y a personne derrière, c'est pas un leader. Alors, ah oui. Mais il ne les force pas à le suivre. Ou ils le suivent, ils ne le suivent pas. Le leader, il est suivi. Alors, et en général, c'est celui qui met la main dans le cambouis. Souvent, on prend l'exemple de Napoléon, hein, c'est pas forcément le meilleur exemple pour les chrétiens, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a été suivi parce qu'il était devant. C'est lui qui traversait les pires situations et les hommes le suivaient. C'était quelqu'un qui n'était pas à l'arrière, qui était devant. Vous voyez ? et il était suivi. Est-ce que nous, nous sommes de ceux qui entraînons les autres librement? Les foules suivent librement Jésus. Jésus n'attache pas ses disciples avec des chaînes. Il ne les enferme pas dans un gouroutisme qui les oblige à le suivre. Il ne les surveille pas, leurs pas. D'ailleurs, il dit un jour, mais combien de temps vous supporterai-je? Il s'exprime même comme quelque part où voilà, il en a un peu ras-le-bol. Il ne les force pas. Il ne leur impose rien. Il marche juste devant eux pour baliser la route. L'autorité de Jésus respecte la liberté humaine. Vraie autorité, respecter la liberté. Même si ça ne vous convient pas. Je ne parle pas des enfants en dessous de 18 ans, ça fera partie de ce qu'on parlera en séminaire de parental. Je parle des majeurs, des gens majeurs. Troisième type d'autorité, c'est l'autorité d'orientation. Orientation stratégique, c'est-à-dire on va quelque part. Stratège, c'est un mot militaire, on va quelque part. Dans ce troisième type, Jésus propose un chemin vers la lumière. Bon, là, l'arc-en-ciel, ça montre qu'il y a de la lumière qui se reflète dans l'eau. Pour faire... voilà. Il y a une orientation vers quelque part, vers l'alliance de Dieu. L'alliance avec Dieu. Il lance une invitation au cœur des hommes. Une invitation à changer de vie. On peut lui répondre oui, on peut lui répondre non. Il ne juge pas. Et l'autorité de Jésus est respectueuse de chacun. Elle donne confiance aux autres. Elle semble dire, toi aussi tu peux. Il y a un président américain qui a dit, yes we can. Oui, on peut. Elle est douce. Et puis il y a d'autres présidents qui disent autre chose, mais pas de politique ici. Elle est douce pour le cœur des hommes. Elle donne envie. Est-ce que votre autorité donne envie aux autres? Ça, c'est un autre élément de cette typologie d'autorité de Jésus. Elle donne envie de le suivre, envie de l'imiter. Autre autorité, type d'autorité, autorité d'enseignement. Jésus attire les foules par son enseignement. Et il disait, mais cet homme, il parle avec autorité. Il enseigne avec autorité, contrairement aux scribes et aux pharisiens. Il a des paroles d'autorité. Ces paroles touchent le cœur des gens. Si vous voulez être un chef, mais il faut toucher le cœur des gens. Que le cœur des gens puisse être touché pour changer. Qui les fait réfléchir ou qui les émerveille, qui les aide à se dépasser. Leur donne envie de se lever. Autoritas, c'est se lever. Hein. Se lever. Non pas s'abaisser. Il leur donne envie de partager. Une communion des cœurs qui s'installe autour de Jésus. Et l'autorité de Jésus mène les hommes vers l'unité. Vous voyez, bon, on cherche toujours l'unité, l'œcuménisme, l'unité. Mais elle n'est pas à faire, elle existe. Quand on a une véritable autorité, on crée de l'unité. Amen. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de ne pas lâcher cette vision que Dieu nous a donnée et de la transmettre parce qu'elle a créé de l'unité et elle continuera à créer de l'unité ici. Amen. Parce que sans unité, on est divisé et on fait le jeu de l'ennemi. Ce que l'ennemi veut diviser, tu es détruire, voler. Okay, on connaît son stratagème. Alors que Dieu, il unit et un vrai chef, il unit. Et il ne désunit pas. Amen. Avec lui, on sent qu'on fait partie de la même famille. On a remarqué avec Michel qu'on était chez Baptiste, on était à Foursquare, on était maintenant à RNC. On s'aperçoit que tous ceux qui martèlent, on est une famille, ce ne sont pas une famille. Quand on est une vraie famille, on n'a pas besoin de le dire. On le vit. Alors, la vraie famille, ça se vit. C'est une réalité. Alors, vous êtes d'accord? Quand je suis obligé de dire sans arrêt, je suis une famille, ça pose un problème. Et on voit que Jésus, il ne disait pas, il faisait. On verra ça, l'enseignement dimanche prochain, où Jésus, dans l'évangile de Marc, eh bien, c'est ses actes qui prouvaient qu'il avait une autorité. Et dernière image suggérée, c'est l'autorité qui édifie, qui fait croître, qui donne la vie, qui fait grandir. Cette autorité d'édification, de croissance, donne du sens à la foule. Il parle en parabole et non pas de manière ésotérique. Aujourd'hui, les gens se tournent vers l'ésotérisme, la cabale et tous ces trucs-là. Plusieurs chrétiens venaient dans les, enfin, plusieurs personnes venaient, qui s'approchaient du Seigneur. Voilà, ils cherchaient les pyramides en Pérou, en Inca, avec Google. Maintenant, on peut chercher. Voilà, ça passionne les foules, voyez, l'ésotérisme, de trouver des secrets. Comment les Égyptiens ont construit leurs pyramides, là, des pierres et tout ça. Ça passionne les foules. Mais c'est réservé à un petit nombre qui ont l'explication, et c'est une élite. Jésus n'a jamais créé d'élite. Jésus a parlé à la foule. Il a parlé simplement, avec des paraboles, avec des images, des choses simples. L'évangile qui devient élitiste n'est plus l'évangile. Parce que Jésus a parlé à la foule. Il a parlé aussi aux disciples. Mais il a parlé à la foule de manière à ce que le message puisse être reçu, appliqué, mis en pratique. Amen. Et l'évangile, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un évangéliste. Vraiment, moi j'ai connu Alain Chouaquet, il était extraordinaire. Il parlait à la foule, il parlait au cœur de manière simple. Pourtant, il avait fait. Il était à HEC, non pas HEC, il était à Sciences Po. Il a fait Sciences Po. Il était un orateur. Possédait parfaitement le français. Il avait une simplicité de présenter l'évangile qui vous touchait. Pour moi, mon cœur y remet quand je l'entendais. C'est, voilà, les paroles qu'il prononçait au travers de la puissance du Saint-Esprit me touchaient. La simplicité touche les cœurs parce que Jésus est venu pour le plus simple, pour la personne qui est le moins éduquée, la moins capable de comprendre les choses. L'évangile doit toucher les cœurs de manière simple, avec simplement des images qui touchent le cœur. Eh bien, Jésus, il a fait ça. Il a fait grandir les hommes vers plus de vie. Amen. Voilà un peu les 5 types d'autorité. Jésus était reconnu pour avoir de l'autorité. Et l'autorité de Jésus vient du Père, l'auteur de toutes choses, qui est la source de l'autorité. Jésus a été envoyé comme l'envoyé de Dieu, le Messie, loin. C'est ça que ça veut dire, l'envoyé, le Messie, loin, le Christ. Et son autorité réside dans la cohérence de ce qu'il a fait. Et cette cohérence s'appliquera pleinement sur la croix par le don de soi total et son amour poussé jusqu'au sacrifice. Amen. On va terminer là pour que le Seigneur puisse nous aider à mettre en pratique cette question de l'autorité. Et on verra la semaine prochaine dans Marc, eh bien, comment cette autorité, eh bien, quand on fera de l'exégèse, on prendra le texte de Marc, et vous verrez comment toutes ces choses apparaissent de manière claire quand on lit simplement le texte qui parle de l'autorité de Jésus. Seigneur, nous te prions afin que, Seigneur, l'autorité que tu as manifestée sur la terre et qui aujourd'hui se manifeste dans le ciel, et sur toute chose, parce que tu es à l'origine de toute création, Seigneur, que cette autorité, nous puissions l'exercer telle que toi, tu l'as prévue. Que, Seigneur, nous ne la déformions pas à notre avantage. Seigneur, parce que souvent il y a des avantages, on le voit dans le monde politique, Seigneur, l'exercice de l'autorité. Mais Seigneur, tu as dit à tes disciples que nous sommes, eh bien, ne soyez pas comme dans le monde qui abuse de l'autorité. Mais soyez des serviteurs. Servez-vous les uns les autres. Soyez généreux envers les uns envers les autres. Et élevez les autres comme vous aimeriez qu'on vous élève. Et là, vous exercez les réelles autorités. Seigneur, que ces choses nous parlent. Que chacun d'entre nous, nous puissions nous placer devant toi. Et Seigneur, te demander pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas exercé cette autorité conformément à ta parole. Afin que, Seigneur, l'autorité ne soit pas un sujet de crainte ou de peur, mais que ce soit un sujet d'envie d'exercer l'autorité à la manière que tu l'as enseignée. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.